Le journal Estelle Schmitt, bonjour Estelle.
Bonjour. Sur fond de colère chez les forces de l'ordre, nouvelle manifestation ce week-end partout en France contre le racisme et contre les violences policières à l'appel du comité Adama Traoré. À Paris, le préfet de police demande la fermeture des bars et restaurants situés sur le parcours. Prudence, pas sans conséquences pour portefeuille des commerçants, on le verra. Et face à la grogne des policiers, le ministre de l'Intérieur tente de corriger le tir, mais pas sûr que cela suffise aux syndicats. La France rouvre progressivement ses frontières lundi pour les frontières intérieures européennes, le 1er juillet pour les autres. Un procès en 2021 pour la SNCF et un cheminot, catastrophe de Brétigny-sur-Orge, 7 morts en 2013. À 8h20, votre invité Pierre.
Roland Gory, qui est psychanalyste et auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent, et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Vos questions à Roland Gory, c'est maintenant, dès maintenant, au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, le manque de lits en Inde pour les malades du coronavirus, l'entreprise française de ski Salomon qui diversifie son activité pour faire face à la crise, et puis découverte en fin de journal de métiers de compagnons qui vont reconstruire la flèche de la basilique de Saint-Denis, détruite en 1845.
France Inter.
Après un premier rassemblement le 2 juin dernier, plus de 20 000 personnes devant le palais de justice de Paris, l'appel au rassemblement ce week-end du comité Adama Traoré pour demander la lumière sur les circonstances de la mort de ce jeune homme noir en 2016 après son interpellation. Manifestation aussi contre les violences policières où se mêleront les militants antiracistes. D'ailleurs à Paris, le cortège partira en début d'après-midi de la place de la République, lieu qu'avait choisi SOS Racisme pour sa manif de mardi dernier en hommage à George Floyd. Et le comité Adama Traoré veut donner un nouveau visage à la lutte antiraciste, Boris Allier.
Il y a eu la génération SOS Racisme.
SOS Racisme ne mobilise plus.
Place aujourd'hui à la génération Adama. Voilà les mots de Youssef Brakni, membre du comité Adama Traoré.
SOS Racisme, c'est ce que nos aînés ont appelé l'antiracisme folklorique. C'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement qui a été créé par le Parti Socialiste à l'époque a clairement détourné les slogans en « touche pas à mon pote », par exemple. Bon, en fait, tout d'un coup, on n'est plus des sujets politiques qui pouvons parler par nous-mêmes. On parle à notre place. Moi, je ne demande pas à être protégé. Je ne suis pas un panda en voie d'extinction.
Pour l'activiste, il n'était donc pas question de participer à leur rassemblement mardi dernier. L'enjeu aujourd'hui, c'est de continuer sur la lancée de la manifestation organisée devant le tribunal de Paris.
Il y a eu un tournant à partir du 2 juin où, en fait, maintenant, la question du racisme systémique est abordée à la télévision. Sur la question raciale, pas au sens biologique, mais la question raciale au sens sociologique, au sens social. Mais maintenant, elle est clairement posée. Nous, on ne cherche pas à diviser, à être des séparatistes comme j'ai pu l'entendre. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une société tous ensemble. Assa Traoré, elle appelle le peuple français à venir descendre dans la rue contre le racisme et les violences policières.
Un appel relayé par d'autres collectifs à Lille, Marseille ou encore Bordeaux.
Boris Allier, à Paris, le préfet de police Didier Lallemand demande que les commerces, bars et restaurants soient fermés cet après-midi sur le trajet de la manifestation. Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient pu rouvrir leur terrasse après plus de 2 mois de fermeture. Yves, par exemple, il est gérant d'une brasserie, boulevard Saint-Denis. Et la nouvelle, c'est Valentin Dunat qui lui a apprise en lui tendant le communiqué de la préfecture de police.
Les commerces à débit de boissons, d'accord, restaurants situés de la place de la République à la place de l'Opéra, on est en plein dedans. Ah oui, d'accord, mais là, ça dit ce que ça veut dire. On a fermé 2 mois et demi, et au jour d'aujourd'hui, monsieur, j'ai même pas été remboursé du chômage partiel de mes salariés. Et les fameux 1500 euros qu'on devait percevoir, eh bien, je les attends encore. Mais ça nous portera encore atteinte, encore un peu plus.
Vous avez l'air blasé.
Eh bien, on ne peut rien faire. Hein. Si on nous demande de fermer, on doit fermer, hein, tout simplement. Hein.
Ils devront, donc vous devez...
mettre en place des moyens de protection...
contre les dégradations.
On ne les a pas, les moyens de protection pour les vitres, ça, moi, je ne les ai pas. On rentrera à la terrasse, on fermera l'établissement, mais des moyens de protection, des contreplaqués et compagnie, on n'a pas ça. Non.
Et c'est impossible à réaliser en quelques heures.
Ah, hein. C'est impossible à réaliser, mais ça nous coûterait encore, je ne sais pas combien, déjà qu'on a perdu 2 mois et demi sans recette, vous savez, ce n'est pas sans conséquence. Hein. Ça fait du mal au porte-monnaie. Hein.
Et autre colère, celle des policiers contre leur ministre Christophe Castaner, appel à la démission et manifestation hier notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Les syndicats reçus par le ministre de l'Intérieur qui leur a adressé un courrier hier soir. Christophe Castaner évoque désormais des mesures de suspension de policiers en cas d'actes racistes, sexistes ou discriminatoires, mais uniquement lorsque les faits sont avérés, pas à plus sur des bases de soupçons. Concernant la technique dite d'étranglement lors des interpellations, le ministre la juge dangereuse. Elle ne sera plus apprise en école de police. Christophe Castaner incite les forces de l'ordre à réaliser une prise arrière pour immobiliser la personne au sol. Un sujet technique qui ne devrait pas être le sien, selon David Lebar, secrétaire national du syndicat des commissaires de police nationale. Il était l'invité d'Inter juste avant ce journal et il assure qu'il ne veut pas la peau du ministre.
Estelle Schmitt, la France va progressivement lever ses restrictions aux frontières.
Annonce hier soir du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, communiqué commun. Les mesures étaient en place, vous le savez, depuis le 18 mars pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Première étape de cette levée, c'est lundi avec les Européens qui arrivent en France. Caroline Félix.
À partir de lundi donc, pour entrer en France, plus besoin de cette attestation de déplacement dérogatoire. Sont concernés tous les États de l'Union européenne et de l'espace Schengen, sauf deux pays, le Royaume-Uni et l'Espagne, deux pays qui maintiennent des restrictions. Par réciprocité donc, la France fait de même. Pour les arrivants d'Espagne, la France maintiendra les restrictions jusqu'au 21 juin. Les voyageurs arrivant par avion seront invités à effectuer une quatorzaine à leur arrivée. Pour ceux qui viennent du Royaume-Uni, eh bien à partir de lundi, même chose, ce sera quatorzaine obligatoire. Plus tard, le 1er juillet, la France va rouvrir progressivement ses frontières extérieures de Schengen. Cet assouplissement se fera en fonction de la situation sanitaire des différents pays. À noter que les étudiants internationaux, eux, seront autorisés, quel que soit leur pays d'origine, à venir en France.
Et on l'a appris hier également, un test de détection du Covid sera obligatoire en juillet et en août avant toute arrivée en Outre-mer. Mais il n'y aura plus de période de quatorzaine ou de septaine imposée à l'arrivée, annonce du ministère des Outre-mer. Les indicateurs au vert en France à la veille d'une allocution d'Emmanuel Macron demain soir et d'une probable accélération du déconfinement. Toujours moins de malades du coronavirus dans les services de réanimation des hôpitaux. 879 hier, soit 24 de moins que jeudi. 29 374 morts en France. Et le Brésil qui devient le deuxième pays du monde le plus endeuillé derrière les États-Unis. Plus de 41 800 morts. Et cette inquiétude également en Chine où 11 quartiers résidentiels du sud de Pékin sont soumis au confinement en raison de l'apparition d'un nouveau foyer dans un marché, 9 écoles et jardins d'enfants fermés. En Inde, à présent, le virus progresse toujours et de façon très rapide. Plus de 8500 morts et des malades qui ont bien du mal à trouver un lit dans un hôpital. Beaucoup obligés d'en tenter plusieurs avant d'être acceptés. D'autres meurent avant. C'est le cas d'un jeune homme, Sébastien Farsi, a rencontré sa famille à New Delhi pour France Inter.
Il est 17h30 quand Kamal Gupta, 41 ans, arrive à l'hôpital privé BL Kapoor dans l'ouest de New Delhi. Cet homme est diabétique et présente les symptômes d'une grippe. Son frère Bhupesh l'accompagne.
Vers 20h, ils lui font une radio et lui donnent des médicaments. Mais à minuit, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas le garder car il n'y a pas de lit. On va dans 4 autres hôpitaux publics et privés, mais aucun n'a de lit. Au 6e hôpital, son niveau de sucre était à 57, ce qui est très bas. Et il respire mal, mais ils l'ont quand même refusé. Quel hôpital peut faire ça?
L'application mobile contre le Covid développée par le gouvernement de New Delhi indique pourtant que ces hôpitaux ont des lits disponibles. Mais les informations sont parfois erronées ou certains ont des lits mais pas assez de personnel. Au bout de 2 jours à chercher, le frère de Bhupesh décède.
Personne ne l'a testé pour le Covid, donc on ne sait même pas de quoi il est mort. Je suis sûr que s'il avait pu avoir un lit, il serait vivant aujourd'hui.
Les autorités estiment que le nombre de cas de Covid-19 pourrait être multiplié par 5 en un mois dans la capitale. Elles pensent donc convertir des stades et des halls d'exposition pour accroître le nombre de lits d'hôpitaux. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
Il est 8h08, les conséquences en France de la crise du coronavirus. Le gouvernement demande au groupe automobile PSA de renoncer à faire venir des ouvriers polonais.
Oui, c'était le projet de la direction de PSA pour renforcer ses équipes du site d'Ordin, c'est dans le Nord. Consigne du gouvernement, privilégier l'embauche d'intérimaires. Reprise économique et incertitude, c'est l'eau de toutes les entreprises depuis la fin du confinement et notamment chez le leader mondial du ski, Salomon, dont le siège social est basé en Haute-Savoie. L'année 2020 sera difficile, on le sait, mais tout n'est pas négatif pour la marque française qui se fait une place dans le milieu de la course à pied. Reportage Annecy, signé Jérôme Val.
Le siège de Salomon, baptisé Annecy Design Center, tourne au ralenti, les bureaux sont quasiment vides. Nous sommes dans l'atelier où d'ordinaire sont créés les prototypes de chaussures de ski, par exemple. Depuis plus de 2 mois, on y fabrique des masques.
Un peu plus de 1200 par jour.
Jean-Noël Thévenoux en est le responsable.
Je dirais qu'aujourd'hui, on a repris 20% d'activité normale. Oui, c'est des mois de perdu. Oui.
Des mois pendant lesquels la recherche sur les produits a été stoppée. Benjamin Aidan est le directeur marketing de la marque.
On a dû arrêter certains projets, on sait qu'on les reprendra plus tard et on décale on décale d'un an la commercialisation de ces produits. Quoi.
Le leader mondial du ski racheté l'année dernière par un groupe chinois, c'est déjà que 2020 est une année à oublier, même si elle devrait être moins pire que prévu, explique le vice-président de Salomon, Eric Pensier.
La bataille, c'est plus de limiter cette décroissance et on voit aujourd'hui que on craignait peut-être d'avoir des décroissances à deux chiffres. On voit qu'on va plutôt gérer quelque chose à un chiffre, mais sur le moyen long terme, j'ai aucun doute, moi, que l'activité running, mais au sens plus large, les activités sportives vont rester au cœur des préoccupations de nos consommateurs dans le monde.
Le premier marché de Salomon avant la France, ce sont les États-Unis où la situation économique est incertaine, mais même là-bas, les signes sont plutôt encourageants, selon Eric Pensier.
C'est les premiers qui sont en train de parler d'une décroissance bien inférieure à ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que ça va faire partie pour nous des marchés qui vont nous tirer en locomotive pour réduire l'impact de la crise, étonnamment.
À la lumière de cette crise, Salomon compte aussi accélérer la relocalisation d'une partie de sa production.
Jérôme Val. Cette mort, des dizaines de blessés, 7 ans plus tard, on apprend qu'il y aura un procès l'année prochaine sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. La SNCF et un cheminot renvoyé devant la justice. Cet agent, aujourd'hui âgé de 31 ans, était à la tête d'une brigade chargée de l'inspection des voies au moment du déraillement. Renvoi de la justice injuste, selon le syndicat Sudrail et son secrétaire fédéral Éric Meyer.
Nous, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'on est allé chercher le bouc émissaire. Alors que ces défauts de maintenance étaient vraiment le résultante d'une politique qui allait vers le tout TGV.
Vous nous dites que c'est Guillaume Pépi qui devrait être renvoyé en correctionnel ?
Bien sûr. Nous, on pense que pour cet accident-là, c'est les deux présidents de l'époque, de SNCF Réseau et de SNCF, dont Guillaume Pépi, qui aurait dû être renvoyé. D'ailleurs, il y a un détail intéressant, hein, c'est que suite à l'accident, une des premières mesures qui a été prise par Guillaume Pépi, c'est de modifier la chaîne de responsabilité, rendant impossible la possibilité pour lui et pour le président de SNCF Réseau d'être inquiété si d'autres accidents similaires venaient à se reproduire.
Des propos recueillis par Olivier Delagarde. 4 à 5 heures d'orage avec des vents violents. Pas de blessés dans le Gard, mais de gros dégâts. Le département était en vigilance orange. Près de Valleurogue, une route départementale s'est effondrée. 2 hameaux désormais totalement isolés. Aucun véhicule ne peut plus passer. Le réseau d'assainissement endommagé, tout comme les cultures en terrasse dévastées, notamment les oignons nouvellement plantés, déplore Christophe Boisson. C'est le maire de Saint-André-de-Magencoul.
Comme la végétation en ce moment est en plein boom, il y a beaucoup d'embâcles qui se sont mis dans les ruisseaux, ce qui a fait déborder un peu tous les ruisseaux un peu partout et des routes départementales ont été dégradées, même emportées carrément à certains endroits. Il y a eu beaucoup de dégâts dans les cultures, surtout les cultures d'oignons. Comme c'est des cultures en terrasse, c'est les terrasses qui ont été abîmées et les oignons qui ont été plantés depuis très peu de temps ont été déracinés ou les terrasses ont cédé et tout est parti, quoi. On connaît les orages et les épisodes saisonnels en période d'automne et non pas en période de printemps. Et la végétation n'est pas du tout la même. Donc, ça fait pas le même effet dans des vallades, comme on dit, ou dans des gros ruisseaux et dans des rivières lorsque la végétation est en plein boom. Et je pense que c'est ce qui a accentué la chose.
Et la vigilance orange pour risque de crue est maintenue pour 2 départements, Puy-de-Dôme et Haute-Loire. On fait le point après ce journal avec Météo France.
La dernière page de ce journal, une flèche à reconstruire.
Oui, pas celle de Notre-Dame de Paris détruite dans l'incendie de l'année dernière, mais celle en pierre de Saint-Denis au nord de Paris. Le chantier va débuter en 2022 pour reconstruire la flèche nord de la basilique des rois de France qui avait été démontée en 1845, jamais reconstruite depuis. Le chantier sera financé par les visites et puis aussi des ateliers sont organisés tous les week-ends jusqu'en octobre. Pour faire connaître les métiers des compagnons qui vont travailler à cette reconstruction, Rémi Brancato assistait à l'un d'entre eux.
Dans le jardin qui borde la basilique, 2 tentes ont été installées pour les visiteurs.
Je vous propose un premier groupe qui va plutôt vers les tailleurs de pierre.
Ce sont eux qui vont fournir les pierres pour remonter la flèche qui culminait à 86 mètres.
L'idée, c'est quand même de remonter la tour comme les anciens.
On sait très bien que c'est entre de bonnes mains.
Les visiteurs comme Gérard s'initient ensuite à la forge et à la taille de pierre.
Vous venez de tailler
un visage dans la pierre.
Voilà, ce travail des cathédrales me fascine, mais c'est magnifique ce qui est fait.
Ces ateliers sont un avant-goût du chantier. Il démarre dans 2 ans et il sera financé par la billetterie, les visiteurs, un échange utile pour Frédéric Thibault, tailleur de pierre.
Vous allez dans Paris, les chantiers, vous avez des grandes palissades, on voit très rarement les métiers. Il y a une méconnaissance totale de ces métiers-là en général. Les tailleurs de pierre, je défends les charpentiers, les couvreurs, le forgeron et tout seul, on ne fait pas de cathédrale.
Et contrairement à celui de Notre-Dame, ce chantier doit durer 10 ans, peut-être plus. L'important, c'est la pédagogie pour Benjamin Mazur, chef du projet pour l'association Suivez la Flèche.
On a la possibilité d'assister, de toucher la reconstruction de là où est né l'art gothique et là où il a été abouti. Ce qui est vachement intéressant, c'est de faire comprendre aux gens, on a beau être dans l'époque moderne, et ben pour arriver au résultat du 12e, du 13e, voire même du 19e, il faut s'appliquer et prendre son temps et s'y préparer.
Et justement, les forgerons se préparent, ils fabriquent par exemple des outils utilisés par les tailleurs de pierre au Moyen-Âge.
Voilà, reportage signé Rémi Brancato, atelier gratuit aujourd'hui, lundi et tout le mois de juin, les vendredis, samedi et lundi, ça sera 6€ à partir du mois de juillet. Reportage complet, tous les détails sur franceinter.fr.
C'était le journal d'Estelle Schmitt. J'ai une question, quel temps aujourd'hui ?
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriqué en France, à retrouver sur malongo.com.
Et voici la réponse, Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, des orages.
Encore et toujours de l'orage dans l'air aujourd'hui sur le quart nord-ouest, du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de la Seine. Ils seront modérés, mais beaucoup plus marqués de la Méditerranée à l'est du Rhône, avec de fortes quantités de précipitations, notamment en PACA et sur la Corse. Dans le quart nord-est, les orages de l'après-midi vont taper plus modérément. Entre ces deux zones de temps instable, le ciel aura un aspect plus calme, du sud-ouest en remontant vers le centre, la frontière belge et la Haute-Normandie. Les températures de l'après-midi vont afficher 18 à Brest, 19 à Caen, Nantes, Limoges et Cognac, 20 à Bordeaux et à Biarritz. Il fera 24 à Paris, Dijon et Bastia, 25 à Lyon et à Marseille et 26 degrés à Lille et à Strasbourg. Et puis notez que le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont maintenus en vigilance crue.